France Info. France Info, les informés. Jean-François Aquilé.
Bonsoir, le débat à l'Assemblée nationale sur l'immigration et les quotas et Christophe Castaner sous pression après la tuerie de la préfecture de police de Paris. Ce sont les deux grands titres ce soir des informés avec Mariam Pirzadeh, journaliste présentatrice à France 24, avec Saveria Rojec, journaliste politique, avec Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France, et Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Bonsoir à vous et bienvenue. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la télé, sur le canal 27 de la TNT. C'est un mot lâché par Édouard Philippe lors de son discours sur l'immigration à l'Assemblée nationale devant un hémicycle à moitié vide, le mot quota.
Je n'ai pas peur de réfléchir à l'idée de quota. Il nous faut donc regarder sujet par sujet. On sait depuis longtemps que les quotas ne peuvent pas s'appliquer à l'asile ni à l'immigration familiale. Pour autant, celle-ci ne saurait échapper à toute maîtrise. Il faut lutter contre les abus et les fraudes et resserrer les critères là où cela s'impose.
Mariam Pirzadeh, ça y est, nous y sommes, les quotas.
Oui, alors il n'a pas peur de prononcer ce mot, mais attention, alors ces quotas, ce serait visiblement par nationalité ou par secteur professionnel, pas question de s'attaquer non plus aux familles, donc on reste très prudent. Il y a eu quand même quelques propositions concrètes aujourd'hui, trois propositions, notamment ce terme de quota qui revient effectivement, que La République En Marche n'a pas peur de prononcer. Ouais. Et c'est vrai qu'on avait l'habitude d'entendre ce mot plutôt dans la bouche de la droite ou de l'extrême droite, donc c'est... Ouais. C'est nouveau. Ouais.
Saveria Rojec, vous vous rappelez, Nicolas Sarkozy n'avait pas osé le prononcer. Mmh. Finalement, il l'avait retiré de son discours, on va dire plus ou moins officiel, quota, c'était il y a 10 ans.
C'est une rupture sémantique, et c'est le cas de le dire. C'est la première fois que le mot quota, effectivement, est prononcé par quelqu'un de la majorité, et qui plus est le Premier ministre. Moi, j'ai trouvé que le discours d'Edouard Philippe, je trouvais que c'était un discours très politique, c'est un discours... assez périlleux, il est dans une ligne de crête. On cite Michel Rocard pour l'aspect un peu humaniste et en même temps, on reconnaît aussi un échec sur la loi asile-immigration en disant nous n'avons pas été jusqu'au bout sur cette loi. Cette loi, elle date d'il y a à peine un an, il faut le rappeler, la loi asile-immigration. Et effectivement, voilà, une véritable rupture sémantique avec l'emploi de ce mot quota. Pas tellement non plus de propositions concrètes. On n'a pas parlé de l'AME, alors pourtant Dieu sait que c'est un sujet...
Pas encore, oui.
Je pense que voilà, globalement, c'était de dire, nous aussi, il n'y a pas de tabou dans la majorité, on peut être ferme sur ces questions, parce qu'encore une fois... Emmanuel Macron, le gouvernement pense que ça se joue, que 2022, sa réélection se joue sur cette thème.
Henri Vernet, qu'est-ce qui a changé depuis quelques années, on va dire, depuis 10 ans.
Cette idée, cette volonté, en effet, de briser les tabous. Maintenant, c'est très verbal, tout ça. C'est vraiment très... communication, puisque c'est un terme qui revient souvent dès qu'on parle de politique désormais. Pourquoi c'est la com? Parce que déjà il y a une quinzaine de jours, quand Emmanuel Macron lui-même, dans son fameux discours plus ou moins improvisé devant les parlementaires de sa majorité, quand il a lui-même dit je brise un tabou, je veux enfin parler d'immigration parce que nous ne voulons pas être un parti bourgeois, etc., et que ceux qui en quelque sorte dans son esprit se coltinent l'immigration, si je puis dire, en tout cas c'est un petit peu la manière dont il le présentait, ce sont les classes populaires. Mais là encore, c'est un faux tabou, c'est pas vrai. L'immigration, on en parle en permanence, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit les politiques. Là, aujourd'hui, alors on franchit un pas un petit peu supplémentaire en disant, regardez, on n'a tellement pas peur de briser les tabous que là, je vous balance le mot quota. En effet, Nicolas Sarkozy l'avait prononcé lui-même, l'avait étudié. Pourquoi, en réalité, est-ce que Sarkozy n'était pas allé plus loin? Parce que sans politique européenne concertée, réellement de coopération européenne, de toute façon, c'est un domaine sur lequel il ne peut pas y avoir de politique migratoire réellement fondée sur des quotas si tout le monde ne travaille pas ensemble dans ce sens-là. Donc, j'allais dire, ça coûte pas cher de parler de quotas aujourd'hui. C'est pas pour cela que demain, cette majorité mettra en place une politique migratoire fondée sur des quotas.
Je répète ma question. Qu'est-ce qui a changé? Gilles Bornstein, vous soumets ce qu'a dit ce matin chez Léa Salamé sur France Inter, Madame Ségolène Royal.
Je suis favorable au débat sur les quotas d'immigration. Pourquoi? Parce que ça donnerait aussi de la visibilité sur qu'est-ce que c'est que l'immigration. Il y a aussi une immigration de qualifiés, une immigration non qualifiée, il y a une immigration familiale, il y a une immigration qui ne l'est pas. Donc qu'est-ce qu'on autorise dans notre pays? Ça mérite un débat national pour savoir ce que l'on accepte et ce que l'on n'accepte pas.
Gilles Bornstein, pour poursuivre ce que disait à l'instant Henri Vernet, les lignes ont bougé finalement. Ségolène Royal dit OK pour les quotas, on y va.
Oui, les lignes ont bougé à la tête de l'exécutif. Peut-être c'est chez Ségolène Royal, le gouvernement prononce le mot de quota. Dans la majorité, j'ai l'impression que ça passe pas toujours.
Moyen, parce
que Moi, à France Info, on avait des députés marcheurs sur le plateau et on voit qu'ils tiquent à chaque fois. Il y a quand même du boulot de pédagogie à faire pour les convaincre de l'opportunité de ces quotas. Moi, il y a un domaine sur lequel je trouve que c'est échangé, on n'en parle pas beaucoup, c'est sur l'aide publique au développement. Parce qu'on a entendu Jean-Yves Le Drian, alors lui, il a été extrêmement cash. Il a dit que l'aide publique au développement, effectivement, ça devait aider aux populations locales à rester sur place, qu'il fallait que ça aille chez les gens qui en ont le plus besoin. Mais alors, il a dit très clairement que désormais, l'aide publique au développement devait être un outil de notre diplomatie. Donc ça devait, en gros, aller dans les pays qui nous aidaient dans notre politique, c'est-à-dire en gros les pays qui acceptent de retenir chez eux leurs ressortissants. Et il ne l'a pas dit comme ça. Mais en gros, ce qu'il a laissé entendre, c'est qu'il y avait aussi ce problème des laissez-passer consulaires pour les gens déboutés du droit d'asile en France, qu'on n'expulse pas parce que leur pays ne veut pas les reprendre. Il a laissé entendre que désormais, l'aide publique au développement serait conditionnée au fait que les pays en question acceptent de reprendre leurs ressortissants. Ce qui est quand même, jusqu'à présent, l'aide publique au développement devait aller dans les pays qui en ont plus besoin.
Marianne Pirzadeh, ce serait une sorte de levier pour, en matière de politique étrangère, ce que explique à l'instant Gilles Bernstein.
C'est compliqué à savoir pour le moment, mais effectivement, je pense que là, ils ont une police. En tout cas, Édouard Philippe, il avait une position d'équilibriste. C'est-à-dire qu'il faut trouver une position entre la droite, l'extrême droite et la gauche, tout en étant ferme sur ce débat que se sont accaparés, le mot est fort, mais voilà, accaparés l'extrême droite. En tous les cas, il n'y a pas de suppression de droit du sol pour le moment. Vous l'avez dit, on n'a pas encore abordé l'épineuse question de l'AME, l'aide médicalement assistée.
Absolument.
Donc
Agnès Buzyn en a parlé quand même.
Elle en a parlé, mais au sein de l'hémicycle. Pour le moment, les débats ne sont pas encore sur ce sujet-là.
Allez, on marque une pause à 20h10 sur France Info pour le rappel de l'info. Bienvenue à vous, Steven Goyer.
Il était l'une des très grandes voix du commentaire sportif, une voix et des envolées aiguës, reconnaissables parmi mille. Eugène Saccomanno s'est éteint ce lundi, quelques jours après son 83e anniversaire. L'animateur du match du lundi, ou dont refait le match, était aussi un grand lecteur. Le plaisir que j'ai, c'est de découvrir de nouveaux livres, avait-il confié sur France Info en 2014. Je n'ai pas peur de réfléchir à l'idée de quota, déclaration d'Édouard Philippe tout à l'heure à la tribune de l'Assemblée nationale à l'occasion de l'ouverture du débat sans vote. Les quotas sont une bonne idée, c'est réaliste, a réagi sur France Info la porte-parole de La République En Marche, Aurore Berger. Christophe Castaner veut resserrer les mailles du filet contre la radicalisation islamiste. Propos 4 jours après la tuerie à la préfecture de police de Paris. L'auteur Michael Harpon avait tué 4 fonctionnaires de police avant d'être abattu dans la cour. Il avait donné des signes de radicalisation. Le ministre de l'Intérieur devra s'expliquer demain devant la délégation parlementaire au renseignement. France, veux-tu encore de tes paysans ? Mot d'ordre de la mobilisation des agriculteurs demain, un peu partout en France, à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Et la journée d'action devrait se traduire par plusieurs blocages sur les grands axes routiers entre 11h et 14h. Les agriculteurs entendent dénoncer les accords internationaux comme le CETA et plus généralement la stigmatisation de la profession. Et puis Sidi Bé remplacera Léo Dubois dans le groupe des Bleus pour les 2 prochaines rencontres face à l'Islande et la Turquie, de rencontre qualificative pour l'Euro 2020, programmée vendredi et lundi prochain. Léo Dubois blessé lors du derby face à Saint-Etienne hier soir.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous évoquions à l'instant notamment les quotas et Gilles Bernstein a rappelé qu'une partie de la majorité était plutôt hostile. C'est le cas, et vous l'avez reçu sur France Info et également que ce soit à la radio ou à la TV, de Jean-François Cesarini, le député de La République En Marche du Vaucluse, qui avait rédigé avec d'autres parlementaires et bien une tribune pour défendre l'intégration.
Si on est juste sur des questions de dire est-ce qu'il faut faire des quotas chaque année pour savoir combien il y aura d'asile politique, combien il y aura effectivement de migrants économiques, on se trompe, parce qu'à la fois on pourra évidemment pas savoir ni envisager ce qui va se passer dans le monde en termes de bouleversement politique, donc effectivement de demande d'asile, mais aussi expliquer qu'aujourd'hui l'immigration, et toutes les études le montrent, est plutôt positive pour l'économie de notre pays, qu'il faut sûrement travailler autrement pour mieux intégrer, à la fois pas mettre des gens sous des ponts à Paris, mais plutôt décentraliser, mettre des familles dans les villages. On voit qu'il y a beaucoup d'exemples réussis aujourd'hui.
Ça veut dire, Roger, que l'aile gauche de La République En Marche est peut-être un petit peu hostile à cette idée de ce concept de quotas.
Oui, oui, même plus qu'hostile, elle était hostile à l'idée même, à la tenue de ce débat. L'hémicycle cet après-midi, l'hémicycle de l'Assemblée nationale était plutôt clairsemé. Il y avait peu de députés en marche, il y avait peu de députés de droite. Et d'ailleurs, l'exécutif n'a eu de cesse dans
les semaines...
À moitié
vide, on peut le dire. Hein. Clairsemé, oui, c'est à moitié vide. Hein. Oui.
Absolument. Oui. Et d'ailleurs, l'exécutif n'a eu de cesse dans les semaines précédentes à déminer ce sujet. Les députés, ces députés dont on parle justement de l'aile gauche, ont été reçus, place Beauvau, reçus par Laurent Nunes pour justement déminer. Il y avait un débat en fait sur le débat. Il faut se rappeler justement le contexte dans lequel la loi asile et immigration a été votée l'année dernière. Ça a été, et c'est encore jusqu'à présent, le texte qui a été le plus difficile à faire voter par la majorité. Plusieurs députés En Marche s'étaient abstenus sur ce texte. Donc voilà, l'immigration c'est effectivement un thème périlleux, c'est un thème inflammable, mais c'est un thème auquel Emmanuel Macron croit pour 2022.
Inflammable, mais Henri Vernier, il n'y a pas beaucoup de monde dans l'hémicycle. Hein.
Mais non, voilà, c'est pour ça, moi, ça m'amuse un petit peu, honnêtement, d'entendre les députés, l'aile gauche, vent debout, etc. Non, si c'était vent debout, ils seraient descendus en masse dans l'hémicycle, ils auraient assisté, ce qu'après tout, ils auraient fait leur métier de député, c'est-à-dire qu'ils auraient assisté à un débat parlementaire et ils auraient donné de la voix. À partir du moment où il y a ce désintérêt, où il y a cette travée vide, tout le reste n'est que littérature. Je veux dire que on pourra. Et puis, par ailleurs, dans les expressions, nous, par exemple, vous avez en effet ce député qui a parlé chez vous à l'instant, mais dans les colonnes du Parisien, c'est exprimé Aurélien Taché, qui fait aussi partie de cette fameuse, elle, en tout cas plutôt favorable à l'immigration, plutôt demandeuse de plus d'intégration. Bon, lui dit que les quotas, ça le dérange pas. Donc on voit bien qu'en effet, le langage évolue. Il y a rien de très nouveau sous le soleil. Quand vous dites la conditionnalité, en quelque sorte, de l'aide au développement, mais attendez, mais rappelez-vous l'UPM, alors non pas l'UMP, mais l'UPM, l'Union pour la Méditerranée, de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, c'était dans le cerveau fumeux que tout cela avait germé. L'idée, c'était de développer, de fixer les populations en voie de développement.
Pas au pouvoir, ça marche que Sarko et Guénaud disaient ça, ça nous
avait
pas échappé.
Mais ce que je veux dire, c'est que c'est donc pas une invention aujourd'hui dans le Drillon, que tout cela est très vieux. Et surtout, de quel montant parle-t-on? On parle de sommes qui suffisent absolument en rien à réellement développer suffisamment les pays d'où viennent les immigrés, suffisamment pour inverser les flux. C'est pas un concept qui est nouveau.
C'est pas un concept qui est nouveau, mais dans l'espèce de, comment dire, de langage dégagé de toute contingence, je n'avais jamais entendu un ministre des Affaires étrangères dire clairement, si vous voulez l'aide publique au développement, il faudra reprendre vos ressortissants.
Il y en a un qui a donné de la voix et qui a dit non, rien n'est nouveau sous le soleil, c'est Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise.
Vous avez décidé délibérément d'injecter une dose de poison de méfiance et de discorde dans les veines du pays. Comment osez-vous dire qu'aborder ce sujet, ce serait lever un tabou, en finir avec un déni de la réalité? Comment osez-vous dire que notre pays a été privé de discussion sur ce sujet? La famille Le Pen en a fait son programme depuis 40 ans.
Mariam Pirzadeh, 40 ans de discussion finalement sur l'immigration. Il n'a pas tout à fait tort, Jean-Luc Mélenchon. Le débat n'est pas nouveau. Il existe dans le paysage politique français depuis très longtemps.
De toute façon, Jean-Luc Mélenchon est connu pour ses envolées lyriques. C'est vrai que ses discours, objectivement, sont toujours des images qui frappent.
Ce qu'il dit est intéressant quand même.
Mais est-ce que on parle de l'immigration, mais est-ce que derrière, il n'y a pas un autre débat qui est induit? C'est celui de l'intégration. Quand Édouard Philippe parle de ses dérives communautaires, derrière, il faut parler aussi de l'intégration de ces personnes. Il y a beaucoup de chiffres qui circulent. Finalement, il y a beaucoup aussi ce qu'on appelle des fake news. Sur ces fake news surfe notamment le Rassemblement national pour instiller une sorte de peur. Mais effectivement, lorsqu'on écoute les spécialistes, les analystes économiques, l'immigration fait aussi du bien dans des pays où la démographie est en berne. On pense notamment à l'Allemagne. Angela Merkel qui s'est battue pour imposer sa politique migratoire. Elle l'a payée malheureusement dans
Avant
les
de faire un petit peu machine arrière quand même au passage. Ouais. Hein. Savaria Rejec sur ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure.
Il a raison, en tout cas, il a raison dans le sens, j'allais dire presque rien de nouveau sous le soleil. Effectivement, il faut se rappeler que depuis 1980, il y a eu 28 lois qui ont été votées sur l'asile et l'immigration. 28 textes de loi, donc c'est énorme. Et effectivement, force est de constater que l'immigration, c'est un débat qui est récurrent, qui est permanent dans le débat politique. Donc oui, l'emploi, effectivement, du mot quota dans la bouche du Premier ministre, ou quand on entend, pareil, une figure de gauche, Ségolène Royal, employer ce mot quota, ça c'est peut-être nouveau, effectivement, le glissement sémantique. Vous parliez de Nicolas Sarkozy, d'Henri Guénot, là on parle de Jean-Yves Le Drian, qui était plutôt une figure socialiste, ou Ségolène Royal. Donc la nouveauté, elle est peut-être là.
L'immigration, c'est vraiment le point de clivage entre la gauche et la droite. Il y a tellement eu d'alternance aussi ces 30 dernières années. Chaque ministre a fait voter une loi. On voit bien que l'immigration, c'est sur ce point-là que s'oppose la gauche,
faut peut-être,
la droite.
Peut-être rappeler deux, trois chiffres. Pardonnez-moi, il y a quand même 6,5 millions d'immigrés en France, des étrangers nés à l'étranger, voilà, c'est la définition, dont un tiers viennent d'Europe et 46% viennent d'Afrique. Par ailleurs, il y a 7,5 millions de descendants d'immigrés, c'est-à-dire qu'un des parents est né ailleurs, hors France. Cela fait donc, au total, l'addition, c'est 13 millions. vous signalez, Mariam Pirzadeh,
mon père
absolument.
Est née à l'étranger, moi,
absolument. Vous en faites partie. 13 millions de personnes au total. Et on l'a rappelé de multiples reprises. 120 000 demandes d'asile en France l'an dernier. Ce qui est une hausse de 22% par rapport au record précédent, qui était le passage des 100 000, hein. Henri Vernet, ces chiffres parle d'eux-mêmes. Cela concerne beaucoup de personnes en France. C'est un vrai sujet.
Oui, leur ancienneté aussi parle d'eux-mêmes, oui. Hein, parce que 6,5 millions, tout ça, c'est le résultat, c'est la sédimentation de décennies et de décennies.
Mais il y a une forme d'intégration en
alors,
France.
En effet, aujourd'hui, en réalité, qu'est-ce qui appelle l'attention là-dessus? C'est plutôt les 120 000 demandes d'asile dont vous parlez. C'est-à-dire, en réalité, c'est ce qu'on a sous les yeux. Non pas le spectacle d'ailleurs, mais la condition, le traitement inacceptable et inhumain de ce qu'on peut voir à Paris, Porte de la Chapelle, dans bien d'autres endroits. C'est-à-dire, en effet,
c'est de cela dont il est question aujourd'hui.
Mais oui, bien sûr. Et ça, là, il y a une véritable urgence humanitaire. Non, c'est pas seulement ça.
Gilles Bernstein,
je voudrais juste dire aussi que, alors c'est vrai que c'est dans le débat depuis longtemps, mais justement, en réalité, c'est quelque chose qui est hautement politique. Et quand on dit comme ça, quand on arrive avec ce gros sabot, qu'on s'appelle Édouard Philippe, qu'on s'appelle Ségolène Royal en disant, attention les gars, je vais briser un tabou, c'est aussi une façon d'adresser un message à une partie de la population, une partie de l'électorat. Là, très clairement, on voit bien qu'au moment où ce gouvernement bouscule un petit peu une aile droite de l'électorat français qui lui est utile, qui vote de plus en plus pour lui et de moins en moins pour les Républicains, il y bouscule un petit peu quand même une frange avec le projet sur la PMA. Et ben, d'un autre côté, regardez ce que je peux faire sur l'immigration. Encore une fois, sans que ça coûte cher, parce qu'on verra ce qu'il ressortira en acte de tout cela.
Allez, Gilles Bernstein va vous répondre, mais d'abord, on marque une toute petite pause, 20h20 sur France Info. Le rappel de l'info avec vous, Steven Goyer.
L'incendie de la mairie de Grenoble d'origine criminelle, résultat du rapport d'expertise adressé au parquet de Grenoble aujourd'hui, en cause des traces de carburant retrouvées sur les lieux. L'enquête du commissariat de police de Grenoble se retrouve maintenant menée pour destruction volontaire par incendie. Un hommage aux victimes demain matin à la préfecture de police de Paris, 5 jours après l'attaque meurtrière d'un agent administratif qui présentait des signes de radicalisation. Il a tué 4 personnes avant d'être abattu. Hommage à 11h en présence du président de la République Emmanuel Macron. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sera lui entendu par la délégation parlementaire au Parlement pour évoquer les dysfonctionnements d'État qui ont permis à l'auteur Michael Harpon de ne pas faire l'objet d'un signalement. Il avait notamment fait part de sa satisfaction après l'attaque de Charlie Hebdo. Une politique sans coup de menton ni naïveté, propos d'Édouard Philippe à l'occasion du débat sans vote sur l'immigration à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre a expliqué ne pas avoir peur de réfléchir à l'idée de quotas et appelé à regarder les choses sans tabou. Une action coup de poing pendant 2 semaines, début aujourd'hui de la mobilisation mondiale lancée par l'ONG Extinction Rebellion avec l'appel lancé à la désobéissance civile pour dénoncer l'inaction des gouvernements sur la question climatique. Rassemblement aujourd'hui à New York ou Sydney. À Paris, les manifestants ont cet après-midi bloqué un pont et un quai près de l'île de la Cité avec un mot d'ordre, occupation pour la suite du monde.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous allons poursuivre donc notre regard sur ce débat autour de l'immigration. On s'est demandé si finalement les uns et les autres se demandent si le chef de l'État n'est pas en train de surfer, on va dire, sur ce qui a fait le sel du Front National pendant 40 ans. Écoutez ce qu'on a dit. J'ai posé la question tout à l'heure à Aurore Berger, la députée des Yvelines et la porte-parole de La République En Marche. Elle était l'invitée du 18-50 France Info.
Je ne marche pas sur les planants de Marine Le Pen. Mais c'est absurde de considérer qu'en République, il y aurait des sujets qui seraient confisqués par l'extrême droite. Mais c'est, je trouve ça dangereux même que nous, on puisse en venir à penser qu'il y a des sujets qui sont interdits. Heureusement que parler de nation, que parler d'immigration, que parler d'identité, que parler d'intégration, que parler de l'accueil, que parler du droit d'asile, heureusement que ça n'appartient pas qu'à l'extrême droite. Et justement, si on n'a pas envie que l'extrême droite puisse un jour arriver au pouvoir sur ces questions-là, parce que quand on regarde nos pays voisins, c'est sur ces questions-là que le populisme monte, alors c'est à nous, non seulement de nous en emparer par les mots, mais aussi d'avoir des actes en face.
Gilles Bornstein, personne n'est propriétaire des sujets.
Non, ça c'est vrai, personne n'est propriétaire des sujets, tout le monde a le droit d'en parler. C'est vrai que historiquement, certains ont plus parlé de certains sujets que d'autres, ce qui fait que quand les autres les abordent, ils sont toujours accusés de faire de la récup. Ce que je voulais dire à Henri quand il dit que l'asile c'est ce qu'on a sous les yeux, je suis pas tout à fait certain. L'asile, comme on l'a dit, c'est 120 000 personnes, l'ont sous les yeux dans les citoyens qui habitent dans quelques lieux du territoire, au nord de Paris, à La Chapelle et à Calais. Mais ce dont le gouvernement parle finalement quand il parle de ça, c'est de l'intégration. Et l'intégration, c'est surtout l'échec de la seconde génération de gens qui sont arrivés sur le territoire français, plus sujet certainement à la radicalisation, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission, plus sujet à la radicalisation que l'ensemble de la population. Et ça, je pense que c'est un problème autrement plus grave, autrement plus dangereux, autrement plus délétère pour la société française que, effectivement, cet asile dont on peut convenir assez facilement que le système est à bout de souffle, qu'il est dévoyé par un certain nombre de nationalités. Mais ce qui fait peur à Emmanuel Macron, à mon avis, c'est l'effet sur la population française et donc sur son électorat potentiel de l'échec de l'intégration. Et ça, ça vient pas des demandeurs d'asile.
Mais Édouard Philippe, Édouard Philippe l'a évoqué aussi tout à l'heure.
Ouais,
il a évoqué
tout à fait.
L'immigration, bien sûr, l'asile, l'intégration et le communautarisme. Il a
absolument.
Eu des mots. On parlait
le communautarisme vient peu des demandeurs d'asile, il vient davantage.
Absolument. On parlait de rupture sémantique, Édouard Philippe Le Brunis parlait de sécession insidieuse, de dérive communautariste. Donc voilà, on en revient à la même chose, c'est que la majorité, et en particulier Emmanuel Macron, est persuadée que 2022 se joue sur ces thèmes régaliens. Donc voilà, il fallait évoquer ces thèmes.
Une fois qu'ils sont évoqués,
qu'est-ce qu'il en sort?
Est-ce qu'il y a eu des amendements? Henri Dernier, ce qui signifie qu'il y a obligation de résultat, finalement, avant 2022.
Qu'est-ce qu'il a annoncé là concrètement qui donnerait une possible évaluation de résultat? À mon sens, pas grand-chose. Et vous, Gilles, vous parlez d'intégration, mais je suis entièrement d'accord avec vous. C'est ça la priorité. Il est là le véritable enjeu. Mais alors, regardez, prenons une mesure emblématoire de l'intégration à la française. Elle a juste, je sais pas, 40 ans, programme commun de la gauche, droit de vote aux étrangers. On a cité tout à l'heure les 6 millions et demi d'étrangers.
Ouais,
il en est toujours pas question. Donc, alors, bonjour le symbole.
Le droit de vote des immigrés aux élections locales.
Des étrangers.
Des étrangers. Des étrangers, pardonnez-moi. Des étrangers.
Vraiment des étrangers.
Même François Mitterrand y avait renoncé.
Mais bien sûr. Et ce n'est toujours pas mis en œuvre. Et il n'en a même pas été question, d'ailleurs, dans ce discours. Donc, l'intégration, bien sûr que c'est une urgence. Est-ce qu'on avance réellement dans du concret dans ce débat? J'ai peu l'impression. En revanche, on fait de la politique.
Ça va y arriver,
tout à fait ça. On a le sentiment, on a vraiment le sentiment quand on les entend aujourd'hui. C'est une sorte d'épouvantail, effectivement, qu'on agite pour satisfaire faire une partie d'un électorat versus une autre partie qui serait plus tentée, voilà, pour se retrouver vraiment dans le face-à-face avec le Rassemblement National. Mais voilà, ce n'est que ça, c'est de la politique, il n'y a rien de concret. Et en plus, dans le fond,
il y a pas de
pour qu'il y ait du concret, ça sera uniquement au niveau européen.
Mariam Pierce-Edouard, sur cet aspect des choses, que dites-vous?
Donc de toute façon, sans coopération européenne, ça n'aboutira pas.
Mariam.
Sur quoi? Sur l'intégration, sur l'immigration, sur ce qui vient de se dire? Oui, je suis assez d'accord. Mais en fait, oui, on parle de quoi? Alors, il y a eu des petites choses concrètes quand même qui ont été annoncées et qui vont peut-être être annoncées. Mais en tous les cas, quel est l'enjeu? Il ne va pas y avoir de vote. Vous l'avez dit, l'hémicycle était à moitié vide. En tout cas, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont fait l'honneur de venir assister, de faire un discours.
Pour vous, c'est un coup d'épée dans l'eau?
Moi, je pense que c'est une stratégie électoraliste. L'année prochaine, c'est les municipales, il y a aussi les sénatoriales. Emmanuel Macron est aussi en difficulté, effectivement, avec la loi sur la PMA, sur une partie de l'opinion. Il veut se réapproprier un sujet.
Je crois que
la gauche n'a plus. Et que
voilà.
Le
problème de Lionel Jospin est assez simple, il s'appelle Lionel Jospin. D'Emmanuel Macron, c'est assez simple.
C'est curieux, très curieux.
Il s'appelle Lionel Jospin. Oui. Il a constaté, je ne sais pas s'il a tort ou la raison, mais je pense qu'il croit que Lionel Jospin, candidat en 2002, avait plutôt pas trop mal gouverné la France pendant 5 ans, que les fondamentaux économiques allaient bien, et pour autant, comme on le sait, il n'a pas été élu. Emmanuel Macron en tire la conclusion qu'un peuple ne se nourrit pas que de pain, ne se nourrit pas que d'un taux de chômage et d'une certaine réussite économique, qu'il faut aussi parler d'un certain nombre de choses, même s'il ne l'exprime pas comme ça, et on sera rappelle que les Français, il avait parlé non pas de la sécurité, mais du sentiment d'insécurité. Je pense que à l'Élysée, on est absolument convaincu que pour avoir une chance d'être élu, il doit aussi traiter ces problèmes qui sont dans l'inconscient des Français, même s'il n'en parle pas.
Allez, je vous donne cette dernière information. Des clés USB contenant les données de dizaines de fonctionnaires de la préfecture de police retrouvés au domicile de Michael Harpon, l'auteur donc de la tuerie, hein, vous le savez, de la préfecture de police de Paris. Nous allons y consacrer bien évidemment la deuxième moitié de ces informés de France Info. Information donc France Info que je vous livre à l'instant, 20h et 28 minutes. On marque une pause, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite des informés de France Info.
Cette brochette de dinde à l'ananas, une pure merveille. Dites-moi, chef, elle vient d'où, votre volaille ?
Oh, de France, monsieur. Ah. La volaille française au restaurant. Moi, je dis oui.
91% des Français souhaitent de la volaille française au restaurant. Sondage Opinionway pour l'APVF janvier 2018.
La volaille française ? Moi, je dis oui.
Bon, mes derniers chantiers sont finis, j'ai envoyé toutes les factures à mes clients. Maintenant, je dois tout ressaisir en compta avant lundi. Tu peux m'aider ?
Oui, j'ai déjà toutes les infos. Laisse, je gère avec ton expert comptable.
Tu stresses jamais, toi ?
Non, je fais du yoga en ligne.
On se sent moins seul quand on peut compter sur Cegid. Avec le portail de gestion collaborative Cegid, entreprenez bien, bien entouré. Rendez-vous sur portail.cegid.com.
France Info Météo, avec Gauthier. Fabricant français de meubles de rangement sur mesure pour toutes les pièces de la maison, à retrouver en magasin et sur gauthier.fr.
La météo, les prévisions d'Élodie Calac de Météo France.
Pluvieux au nord demain, ensoleillé au sud, sur les régions allant du nord-ouest vers le bassin parisien, le nord du centre-val de Loire, le nord de la Seine et le Grand Est, il pleuvra. Ça s'arrangera progressivement sur les régions voisines de la Manche. On retrouvera de petites éclaircies en cours de matinée, plus belles l'après-midi. On ne sera pas à l'abri d'une averse sur les côtes bretonnes et le Cotentin. Le vent sera parfois marqué sur ces régions, jusqu'à 50 à 60 km à l'heure. De la Gironde vers le sud de la Bourgogne et la Franche-Comté, les nuages auront l'avantage. Ça n'empêchera pas quelques éclaircies bien appréciables. Et puis du sud de l'Aquitaine vers les Alpes, la Méditerranée, là vous aurez du soleil. Un peu plus de nuages le matin sur le Lyonnais et sur le nord des Alpes, mais ça ne durera pas. Le matin, il fera 5 à 10 degrés sur les régions de l'Est, 10 à 16 ailleurs. L'après-midi, 15 degrés à Metz, 16 à Paris, 17 à Lille et à Nantes, 22 degrés à Nevers, à Nice, 24 à Lyon, Marseille, 25 à Ajaccio et on ira jusqu'à 27 à Agen.
– 20h30 sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Emmanuel Langlois.
– Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Les suites de la perquisition du domicile de Michael Harpon à Gonesse dans le Val-d'Oise, l'auteur de la tuerie de la préfecture de police de Paris jeudi. Les enquêteurs ont découvert des clés USB contenant des fichiers informatiques avec de nombreuses vidéos de propagande de Daesh. L'informaticien y conservait aussi les coordonnées personnelles d'une dizaine de ses collègues de la préfecture de police de Paris. Édouard Philippe a ouvert cet après-midi le débat sur l'immigration à l'Assemblée, débat sans vote, un an après l'adoption de la loi Asile-Immigration. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre a adressé le bilan paradoxal, a-t-il dit, de la demande d'asile en France, en hausse par rapport à l'Europe.
Le système français d'asile est aujourd'hui saturé. Les données sont claires, incontestables. En 2018, la France a enregistré le record de 123 000 demandes d'asile, soit une augmentation de 22% par rapport à l'année précédente, alors que dans le même temps, le nombre de demandes baissait de 10% dans le reste de l'Europe. C'est ce paradoxe qu'il nous faut comprendre pour avancer. Il y a, pour l'expliquer, deux phénomènes. Le premier, c'est que la France fait face à d'importants mouvements migratoires secondaires. En moyenne, 30% des demandes qui nous sont soumises ne relèvent donc pas, en principe, de la responsabilité de la France. Le second phénomène, c'est la part importante au sein de la demande d'asile des nationalités correspondant à des pays que l'OFPRA considère comme sûrs. On trouve la Géorgie et l'Albanie, c'est-à-dire des pays qui sont candidats à l'adhésion à l'Union européenne.
Édouard Philippe, tout à l'heure à l'Assemblée, le Premier ministre qui se dit prêt à réfléchir à l'idée de quotas à propos de l'immigration, défendant sa politique depuis deux ans, mais reconnaissant n'avoir pas atteint tous ses objectifs. Le Monde Paysan annonce le blocage demain mardi entre 11h et 14h des principales grandes routes françaises. Les agriculteurs veulent ainsi lancer un avertissement aux autorités et faire entendre leur détresse à l'ensemble du pays, d'après les deux syndicats qui appellent à ce mouvement. Certains ont d'ores et déjà lancé les hostilités, comme à Limoges. Limoges ou Nevers ce soir. Les paysans qui protestent notamment contre l'accord de libre-échange CETA signé entre l'Union européenne et le Canada. La piste criminelle désormais privilégiée dans l'enquête sur l'incendie de la mairie de Grenoble fin septembre. D'après le rapport d'expertise, des traces d'essence ont été retrouvées sur place. Le feu avait été allumé en pleine nuit. Il était resté circonscrit à la salle du conseil municipal, mais des fumées et des suies s'étaient propagées à des bureaux. Les discussions sur le Brexit, elles reprennent à Bruxelles pour une semaine décisive. Les Européens attendent des Britanniques qu'ils modifient leur position pour éviter un no deal, une sortie sans accord à la fin du mois. Le prix Nobel de médecine, décerné à deux Américains et un Britannique pour des études sur l'adaptation des cellules aux besoins en oxygène dans l'organisme. Leurs travaux ouvrent des perspectives dans le traitement du cancer et de l'anémie notamment. Nouvelle tuile pour les Bleus, déjà privés de Paul Pogba et d'Hugo Lloris. Didier Deschamps devra aussi se passer du Lyonnais Léo Dubois, forfait à 4 jours du déplacement en Islande, qualificatif à l'Euro 2020 de football.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés avec Mariam Pirzadeh, journaliste présentatrice à France 24, avec Savaria Rojek, journaliste politique, avec Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien aujourd'hui en France, et Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Alors, nous vous l'annoncions à l'instant lors de la perquisition au domicile de Michael Harpon, l'auteur des 4 meurtres jeudi dernier à la préfecture de police de Paris, dans son domicile à Gonesse, dans le Val-d'Oise. Les enquêteurs, eh bien, ont découvert des clés USB contenant des fichiers informatiques avec de nombreuses vidéos de propagande de Daesh. C'est ce qu'indique une source policière. L'assaillant de la préfecture de police y gardait les coordonnées et les données personnelles d'une dizaine de ses collègues de la préfecture de Paris. Henri Vernet, je me tourne vers vous. Le Parisien, aujourd'hui en France, sur en ligne, a livré d'autres informations.
C'est ça. Bah, essentiellement celle-là. C'est-à-dire que vraiment, dans ces clés USB, ont été découvertes des choses absolument extravagantes, quoi, extraordinaires, qu'un membre, qu'un fonctionnaire de la préfecture de police ait pu avoir ça depuis tout ce temps. Là, donc il avait données personnelles, coordonnées personnelles de plusieurs fonctionnaires, plusieurs agents de la préfecture, dont on ne sait pas exactement quel aurait pu être l'usage de ces données. Il faut se souvenir que Michael Harpon était détenteur, était titulaire d'un niveau d'habilitation secret défense, donc un deuxième niveau, c'est-à-dire il n'aurait plus qu'un échelon pour arriver au plus élevé. Et parmi, et donc ce que nous disons, ouais, sur notre site, c'est que parmi ces vidéos, il y a des scènes absolument atroces de Daesh, des scènes de propagande, des scènes de décapitation. Donc voilà ce que détenait cet agent présenté donc par Castaner une heure après le drame, comme quelqu'un ne présentant aucun signe de dérive quelconque.
Savaria Rojek.
Ça commence à faire beaucoup pour Christophe Castaner. On parle de quelqu'un donc qui détient ce type de vidéos qui font l'apologie de Daesh. L'assaillant est aussi connu pour avoir fait l'apologie de l'attentat de Charlie Hebdo. Donc voilà, demain, Christophe Castaner va devoir répondre. Il est auditionné par la délégation parlementaire au renseignement. C'est une audition complètement à huis clos. C'est 8 membres, 4 députés, 4 sénateurs, qui sont tous habilités secret défense. Et puis, il y a une deuxième audition de Christophe Castaner, ça c'est jeudi, devant la commission des lois du Sénat. Philippe Bas, qui avait déjà auditionné Alexandre Benalla, et qui a déjà auditionné également Christophe Castaner pour sa gestion de la crise des Gilets jaunes.
Alors, il y a ces nouvelles révélations qui arrivent ce soir, que nous vous détaillons donc en direct dans Les Informés. Christophe Castaner, lui, a dû se défendre à deux reprises, que ce soit sur TF1 et y compris sur France Inter ce matin, face aux demandes de démission dans l'opposition. Lui a parlé plutôt, le ministre de l'Intérieur, de dysfonctionnement au sein du système policier.
Il y aurait dû y avoir un signalement formel fait, un signalement automatique, et je pense que la première faille de notre système, c'est qu'il n'y ait pas eu de signalement, et surtout que celui-ci ne soit pas automatique, je souhaite. Et ce sera aussi à examiner dans le cadre de la mission que le Premier ministre a confiée à nos services de renseignement sur ce sujet-là. Je souhaite que toute alerte fasse l'objet d'un signalement automatique.
Mariam Pirzadeh, c'est vrai que quand l'on apprend ce soir ce que détenait donc l'auteur des assassinats, des meurtres, Michael Harpon, chez lui à Gonesse, il y a quand même peut-être quelque chose de l'ordre du problème au niveau de l'État.
Oui, c'est aberrant, ça pose plus que jamais en question le système sécuritaire de notre pays. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des failles. Ça prouve aussi, alors on se pose la question, on sait que les différents services de renseignement ont du mal à communiquer, à faire passer les informations, à faire passer les dossiers. Et ce n'est pas aussi la première fois que le service de renseignement de la préfecture de police aussi n'a pas transmis une information. Je pense notamment à l'attentat à Saint-Étienne-du-Rouvray en 2016. Ouais. Ça pose des questions. C'est quand même dramatique. Ça veut dire que lorsqu'on rentre à la préfecture de police, il n'y a plus de contrôle. Et lorsqu'il parle du signalement, les attentats de Charlie Hebdo, c'est janvier 2015. On est en septembre 2019. Ça veut dire que ça fait 4 ans et demi qu'il est signalé. Sauf qu'il a été signalé de manière orale. Il n'y a pas eu de preuves noires sur blanc, donc qui ont pu remonter aux plus hautes hiérarchies.
Et Gilles Bornstein, vous diriez dysfonctionnement ou scandale d'État ?
Scandale d'État, enfin, dysfonctionnant énorme. Je n'en reviens pas de ce qu'on apprend. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste des affaires de police ou de justice, mais je trouve ça absolument invraisemblable que quelqu'un qui est habilité au plus haut niveau de secret, enfin, dans un des plus hauts niveaux de secret défense, un fonctionnaire puisse détenir de telles informations sur ses clés USB sans que personne ne s'en rende compte, alors qu'on nous dit que ces gens-là sont surveillés, et c'est la moindre des choses qui sont surveillées, y compris pour la sécurité de leurs confrères, parce que je me mets dans la tête de ceux qu'il n'a pas assassinés, qui travaillaient à côté de lui, de se dire qu'ils avaient, que lui avait leurs adresses, leurs noms, des informations sur eux, sur sa clé USB. On ne sait pas s'il n'avait pas été assassiné là, ce qu'il aurait pu faire le lendemain ou le surlendemain. Enfin, c'est absolument invraisemblable. Mais j'allais dire, ce problème, d'une certaine manière, n'a rien à voir avec Christophe Castaner.
C'est le fusible qui va sauter.
Il y a ce problème d'état, on se rend compte qu'il y a alors un dysfonctionnement majeur, un trou dans la raquette, enfin vous appelez ça comme vous voulez, mais il y a un truc qui ne fonctionne pas. Puis il y a un autre problème, alors qui celui-là n'est pas très original, il y a un problème Christophe Castaner, qui n'est peut-être pas un très bon ministre de l'Intérieur, mais c'est pas ça. Ça, c'est des procédures qui ont été mises en place par ses prédécesseurs.
Le problème, c'est qu'on se pose cette question-là sur Christophe Castaner toutes les trois semaines.
Ce qui est reproché, Savaïa Rojec, au ministre de l'Intérieur, c'est au fond d'avoir peut-être parlé trop vite ce jour-là.
Voilà. Oui, mais c'est un reproche qu'on lui fait fréquemment. Il avait déjà parlé trop vite quand il est parlé d'attaque sur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Il parle trop vite aussi pendant la crise des Gilets jaunes.
Mais est-ce que le reproche va au-delà de...
C'est quand même un ministre. Toutes les trois semaines, on se pose la question, va-t-il tenir ou ne va-t-il pas tenir ?
Henri Vernet, qu'est-ce qu'il reproche ?
Le vrai reproche qu'il faudrait lui faire, et en tout cas que lui font, nous par exemple, nos journalistes, quand ils parlent, alors bien sûr en off peut-être, mais à de hautes autorités des forces de sécurité, donc y compris des policiers, donc des gens qui travaillent avec Castaner, eux, ils parlent pas de dysfonctionnement. Ils disent c'est pas un dysfonctionnement. Ils disent c'est un séisme. Un séisme, c'est pas du même ordre. Donc, ce qu'il faut lui reprocher, vous avez totalement raison, c'est vrai qu'il a parlé beaucoup trop vite. Mais ça, c'est habituel chez lui. Il le fait à chaque fois. On le sait, il est comme ça. Non. Ce qu'il faut lui reprocher de réel, c'est tout simplement de pas tenir sa maison. Et quand cette maison, c'est la place Beauvau, que c'est le ministère de l'Intérieur, et que le contexte est celui-ci, c'est quand même un problème qui devient un petit peu préoccupant.
Nous marquons une pause à 20h40 sur France Info avec le rappel de l'info, Steven Goyer.
Des vidéos de propagande de Daesh retrouvées au domicile de Michael Harpon. Les enquêteurs ont mis la main sur des clés USB regroupant également des informations sur les collègues de l'auteur de l'attaque à la préfecture de police de Paris jeudi. Le parquet antiterroriste confirme que les clés USB sont en cours d'analyse. Je n'ai pas peur de réfléchir à l'idée de quotas. Déclaration d'Edouard Philippe tout à l'heure à la tribune de l'Assemblée nationale à l'occasion de l'ouverture du débat sans vote. Le Premier ministre exclut l'immigration zéro et la remise en cause du droit du sol et fixe 6 orientations pour ce débat, notamment l'intégration par le travail, des conditions d'accueil identiques en Europe ou encore un délai d'examen moyen de 6 mois pour les demandeurs d'asile. Mesures de restriction maintenues pour les agriculteurs de Seine-Maritime jusqu'au 11 octobre. L'annonce du préfet 10 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Les agriculteurs de 112 communes du département ne peuvent par exemple plus commercialiser leur lait. Les comptes de Donald Trump accessibles à la justice américaine. Décision d'un juge fédéral dans l'enquête sur un versement effectué à l'actrice pornographique Stormy Daniels. Le président américain soupçonné d'avoir acheté son silence après une liaison supposée. L'avocat de Donald Trump a expliqué qu'il ferait appel. Et puis, les amoureux du foot perdent l'une de leurs voix fétiches, celle d'Eugène Saccomano, décédé aujourd'hui à l'âge de 83 ans. Il avait passé plus de 40 ans sur les ondes chez nos confrères d'Europe 1 et RTL et commenté des milliers de matchs. Il avait également animé les émissions Le Match du Lundi ou encore la bien connue On Refait le Match.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Mais pourquoi diable la radicalisation de Mickaël Harpon n'a pas été signalée par écrit, comme vous le rappeliez, Mariam Pirzadeh, tout à l'heure? Nous avons posé la question à Christian Cambon, c'est le sénateur Les Républicains du Val-de-Marne qui a évoqué Savaria Rojec, celui-là même qui va présider la commission parlementaire qui va auditionner le ministre de l'Intérieur demain.
Comment se fait-il qu'il n'y a pas de rapport écrit et que la direction ne soit pas informée qu'en son sein, il y a quelqu'un qui présente quand même des signes assez inquiétants? On a peut-être voulu ne pas faire de vagues et faire en sorte que on passe sur cette affaire en disant bon, c'est quelqu'un de religion musulmane, si je le signale, peut-être que ça va poser des problèmes, je vais passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Vous voyez, il y a peut-être cet affaissement de la vigilance qui peut être assez dangereux et qui malheureusement a abouti à ce drame.
Mariam Pirzadeh, oui, affaissement de la vigilance, nous dit Christian Cambon.
On se pose les questions, hein. Quels sont les signes, à partir de quel moment effectivement il faut signaler un individu? Enfin, après la vague de choc des attentats de Charlie Hebdo en juillet 2015, lorsqu'un policier qui effectivement a accès à des données très sensibles se félicite, enfin, loue cet attentat, il faut se poser des questions. C'est quand même lorsque il ne serre plus la main aux femmes, il ne parle plus aux femmes. Je veux dire, il y a eu plusieurs. Je veux dire, on vit dans une société où on connaît maintenant les premiers signes de radicalisation. Donc, comment des policiers qui sont vraiment vraiment au cœur, ouais, du problème, n'ont pas réussi à avoir ces signes? On se pose aussi la question.
Non, mais effectivement,
ça va y arriver, oui.
C'est scandaleux quand Christophe Castaner réclame la mesure qu'il réclame aujourd'hui. Il parle d'un signalement automatique. On se dit comment c'est possible, dans l'état de notre pays, avec les attentats depuis ces dernières années, que ce signalement ne soit pas déjà automatique.
Déjà
qui plus est, pour une personne à ce niveau-là de renseignement et de responsabilité. Maintenant, ce que je trouve assez insupportable, au contraire, c'est la récupération politique de cette affaire, et en particulier, voilà, le discours d'une partie de la droite et bien sûr de l'extrême droite, qui parle, qui explique, il dit c'est pas un échec des services, c'est un déni du danger islamiste. Et ça, cette récupération, elle est fausse, oui, et elle est lamentable.
Alors, avant de venir à la récupération, Henri Vernet, oui, je voudrais rester sur la réponse technique, au fond, qui est apportée par le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'elle est suffisante, à vos yeux, à savoir désormais envisager une sorte de signalement automatique?
Bon, déjà, franchement, c'est incroyable que ça n'ait pas été le cas depuis 4 ans, puisque de quoi on parle? On parle de ce qui existe depuis les premiers attentats contre Charlie Hebdo, donc janvier 2015. Et donc, en effet, à ce moment-là, ce garçon s'était signalé par ses propos incongrus. Donc, qu'il faille attendre aussi longtemps pour des signalements automatiques. Alors, en même temps, c'est quand même révélateur. C'est-à-dire que si le ministre les demande, c'est que peut-être ce que disait le député à l'instant est peut-être un petit peu fondé. Vous savez, il y avait un rapport fait par des parlementaires, dont le LR Éric Diard, qui signalait cela, on a du mal à faire remonter l'info. Ça, d'un petit peu. Pas mal de milieux, pas mal de services publics.
L'info, de la vigilance.
Mais oui, mais en effet, parce que quelque part, on n'a pas envie, si je signale tel collègue, que je sois prof, que je sois dans le domaine de la santé, que je sois policier, quelque part, est-ce que je vais pas opérer de la discrimination? Est-ce que je vais pas être un petit peu islamophobe, etc.? Donc, cela existe quand même, cette idée, cette retenue que chacun, ouais, peut avoir. Donc là, je pense qu'en effet, la visée du ministre avec cette demande d'automaticité, ça vise vraiment à ce que, le moindre signal, le signal faible, comme on dit, ça doit remonter. Maintenant, quand je dis, attendez, il y a un problème dans la manière dont on tient sa maison, c'est quand même extraordinaire que des dérives aussi poussées que celles maintenant qu'on découvre à propos donc de Mickaël Harpon, que tout cela n'ait pas été détecté au sein quand même de la direction du renseignement de la préfecture de police, il y a un problème. Et donc, si M. Castaner avait le sens des responsabilités, même pas de sens de l'honneur, tout ça est bien et très éloigné des préoccupations actuelles, oui, des politiques qu'il
qu'est-ce
soit.
Que vous dites,
mais en réalité,
soir, oui,
sens des responsabilités, je trouve que c'est pas notre rôle, journaliste, etc., de demander la démission de tel ou tel, quoi. Mais c'est un constat quand même que quelqu'un de responsable, il devrait s'interroger sur son métier, sur sa fonction, quand on constate de telles choses. Je veux dire qu'en Belgique, après Molenbeek, il y a eu quand même des démissions. Justice intérieure au Royaume-Uni également.
Vous dites ce soir, Henri Vernet, qu'au fond, le ministre devrait tirer les conséquences de ce qui s'est produit.
En tout cas, il devrait au minimum. Je trouve que le ton qu'il a, la manière dont il nous explose ça de manière un peu pateline, comme ça, où il y a des dysfonctionnements, tout ça, je trouve que ce n'est pas assumer ses responsabilités.
Ouais, justement, il dit qu'il n'est pas responsable. Donc, s'il démissionne, ce serait un aveu de faiblesse. Ça veut dire qu'il est responsable. Ce matin, sur France Inter, il disait, mais en 2015, j'étais pas en poste lors des attentats de Charlie Hebdo, lorsqu'il a été signalé oralement une première fois. Donc, s'il démissionne, c'est sa ligne de défense, en tout cas.
C'est exactement la même ligne de défense qu'il a eue en décembre dernier.
À chaque affaire. Mais Emmanuel Macron et Edouard Philippe ne le lâcheront
jaunes,
pas.
C'était pas de sa faute, c'était la faute de la préfecture de police qui avait mal géré. Alors on a changé le préfet.
Gilles Bornstein, dans ce type de séquence extrêmement difficile, il y a quand même des personnes qui ont été victimes de ce terroriste. Quelle est la réponse à apporter? Est-ce qu'elle est technique? Est-ce qu'elle est au sein des services de renseignement et au sein des forces de l'ordre? Ou est-ce qu'elle est aussi politique?
Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Elle est forcément technique. Elle est forcément au sein des services de renseignement. Après, elle est peut-être politique. Je pense qu'on a tort de mêler le sort de Christophe Castaner à ça. Christophe Castaner est certainement un pas très bon ministre de l'Intérieur. Il parle trop, il est léger. On a l'impression qu'il n'a pas encore compris qu'il était ministre de l'Intérieur. C'est une chose. Mais je pense que ça aurait pu se passer. C'est un dysfonctionnement majeur dans les procédures de l'État qui aurait pu se passer avec n'importe quel ministre.
Je suis pas sûr
et
de
ça,
ça,
c'est... Peut-être. Peut-être, je ne suis pas spécialiste.
Bah, il paye les pots cassés des années précédentes.
Je veux bien terminer. Et ça, voilà, il paye les pots cassés des années précédentes. Et ça, c'est absolument gravissime. L'État doit absolument réagir, doit montrer qu'il réagit, doit nous dire ce qu'il doit faire de nouveau pour régler ça. Après, effectivement, Emmanuel Macron a un problème. On le sait, Emmanuel Macron a un problème avec beaucoup de ses ministres. Il n'a certainement pas des gens assez compétents proches de lui. Il a un problème de banc de touche. Ça a déjà été compliqué de le trouver quand Gérard Collomb est parti. Ouais. Donc on imagine que si Christophe Castaner part, ça va être encore plus compliqué. Mais je crois vraiment que les deux... Enfin, la médiocrité de Christophe Castaner et la gravité du problème, c'est pas la même chose.
Ça va dire, Roger, c'est un problème de compétence ou un problème de communication?
Ah non, c'est un problème... Il y a visiblement, très clairement, un échec grave... très grave, du fonctionnement à l'intérieur des services. Ça, je pense qu'à ce stade, personne ne peut le nier.
Gravissime.
Voilà, vu le nombre d'informations qu'on a. Maintenant, pour rebondir sur ce que disait Gilles sur la place ou non, le maintien ou non de Christophe Castaner, de toute façon, c'est très clair. Édouard Philippe lui a renouvelé sa confiance hier. Édouard Philippe, donc Emmanuel Macron. Et pour rebondir sur ce que vous disiez...
Ça veut rien dire.
Non, mais Emmanuel Macron, de toute façon, il a beaucoup de mal, il faut se rappeler.
Voilà.
Il a beaucoup de mal à se séparer des gens, il faut se rappeler. Voilà, le théâtre de boulevard autour du départ de Gérard Collomb, c'était la même chose avec Nicolas Hulot.
Ma question, Henri Vernet, tiens, on aurait eu un ministre qui, ce jour-là, aurait dit « J'attends les conclusions du procureur de la République », il n'y aurait pas de sujet, Christophe Castaner. Nous sommes d'accord.
Alors, il y en aurait beaucoup moins, en tout cas.
Oui,
mais
je pense qu'il
y en aurait quand même un, excusez-moi, moi non plus, je suis alors, tout à fait comme Gilles, je ne suis pas du tout un spécialiste de la police et de ces questions de terrorisme. En revanche, je regarde mes confrères, j'écoute, je les écoute, je discute avec eux, et eux-mêmes ont recueilli des propos selon lesquels, enfin, ces experts, ces spécialistes donc de la police disent, mais attendez, avec Cazeneuve, avec Sarkozy, on peut remonter encore un peu plus loin, sans doute, il y avait plus de rigueur, il y avait plus d'exigence,
Mais ça aurait été géré différemment.
Allez. Mais oui, peut-être aussi que certains dysfonctionnements, pour reprendre les termes de Castaner, qui tiennent quand même à une espèce de, non pas de laxisme, mais enfin on voit que il y a des maillons faibles dans la chaîne de commandement. On peut penser qu'avec un Cazeneuve dernièrement, peut-être avec Valls auparavant et Sarkozy encore auparavant, ces maillons faibles auraient moins existé. En tout cas, c'est l'avis de haut gradé de la police nationale.
Nous allons entendre dans un instant la voix de l'opposition, celle d'Éric Ciotti, à propos de ce qui s'est produit à la préfecture de police de Paris. 20h50 sur France Info. Tout d'abord, ce rappel de l'info avec vous, Steven Goyer.
Et les explications de Christophe Castaner attendues par les parlementaires. Le ministre de l'Intérieur devra préciser demain l'action de ses services après la tuerie de jeudi à la préfecture de police de Paris et sur le non-signalement du comportement de Michael Harpon. L'auteur de l'attaque avait tué 4 de ses collègues. Et puis on apprend ce soir que des vidéos de propagande de Daesh ont été retrouvées au domicile de Michael Harpon. Vidéos sur des clés USB regroupant également des informations sur ses collègues de la préfecture de police. Le parquet antiterroriste confirme que les clés USB sont en cours
cours d'analyse. Une autopsie aura lieu demain pour déterminer les circonstances exactes de la mort d'un jeune homme de 23 ans hier à Villiers-le-Bel en banlieue parisienne. Un accident de moto aux alentours de 17h hier soir dans le quartier de la Cerisaie. D'après les premiers éléments recueillis, un des fonctionnaires de police lui aurait fait signe de ralentir avant que son véhicule ne s'encastre dans un poteau métallique. Pas de retrait général des troupes américaines au nord-est de la Syrie. À peine 25 personnes retirées de la frontière. L'annonce d'un redéploiement a semé le trouble aujourd'hui dans la communauté internationale, interprétée comme un feu vert laissé à la Turquie pour attaquer les Kurdes. Il était l'une des très grandes voix du commentaire sportif, une voix et des envolées aiguës inimitables. Eugène Saccomano s'était éteint ce lundi, quelques jours après son 83e anniversaire. C'était un faux guignol, un faux nez rouge. Il était truculent, a déclaré sur France Info Pierre-Louis Basse, ancien journaliste au service des sports d'Europe 1.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
C'est une guerre et nous refusons de la voir, a expliqué en substance Éric Ciotti ce matin, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Il était l'invité des 4 vérités sur France 2.
On est face à une guerre qui nous a été déclarée par la barbarie islamiste. Il y a des rapports multiples. Encore un récemment, celui du député Éric Diard, qui pointait les problèmes de radicalisation dans les services publics et dans les professions sensibles.
Voir, selon vous, Alexis, comment
il y a une forme de déni. Aujourd'hui, un de vos confrères, Alexis Brézé, le patron du Figaro, a décrit dans une formule que je trouve très pertinente, le déni d'islamisme. On refuse aujourd'hui de voir la force de la menace qui nous entoure.
Saverio Rojek, vous voulez réagir?
Ah, je trouve ça insupportable et je trouve ça faux surtout. Je trouve ça faux d'imputer ce qu'il s'est passé à un déni, à un aveuglement général envers le danger islamiste. La police, les services, ils passent leur temps à déjouer les attentats. Bien sûr, ce qu'il s'est passé, on vient de le dire, on est tous d'accord là-dessus, c'est gravissime, c'est un échec grave des services, il y a un problème, il y a un dysfonctionnement au sein des services. Mais ça ne veut pas dire que la police, que nos forces, elles sous-estiment le danger que justement elles côtoient chaque jour.
Mariam Pirzadeh, sur ce que dit ce député Les Républicains, vous êtes en accord avec ce qu'il dit ou pas?
Oui, c'est tabou, effectivement, c'est tabou, parce que moi, je trouve ça tabou. Je trouve que c'est compliqué de parler lorsque l'islam est là tout de suite. Mais peut-être que effectivement, les anciens collègues de Michael Harpon ont eu ce problème. C'est ce qu'on appelle touchy. Donc, ce qu'il dit, c'est vrai. Ça manque de rigueur. On est dans une. Alors, la guerre, elle est. Ouais. Je trouve ça assez fort. Mais on a connu des attentats qui ont profondément chamboulé le pays. Et on est encore chamboulé. Je veux dire, on a encore des réflexes. On a encore, je parle en mon nom, mais lorsque dans le métro je vois une personne qui me paraît bizarre ou quand je vois un bagage abandonné, j'ai peur et je ressens ça ici.
Mais la France n'est pas dans le déni.
Mais il y a un déni parce que
la France se bat au Mali, en Irak, en Syrie. On a de cesse de
renforcer notre législation. Après, le risque zéro n'existe pas. Effectivement, vous le disiez, le risque zéro n'existe pas. Et vous aviez raison. Chaque jour sont déjoués plusieurs attentats. Des policiers sauvent la vie des Français.
On n'est pas dans un déni face à ce danger.
Gilles Bornstein, quand on découvre qu'il y a eu une vingtaine de profils radicalisés, mis à l'écart dans les rangs de la police, l'auteur de l'attaque de jeudi n'en faisait pas partie. C'est vrai que nous découvrons malheureusement à chaque drame des réalités dont nous ignorons tout. Et c'est ce qui fait nous interroger sur le niveau de prise de conscience et de sécurité dans ce pays.
Oui. Mais qu'il y ait un problème de sécurité, c'est évident. Et qu'il y en ait un problème pour concilier sécurité et liberté, que nos sociétés occidentales, et particulièrement la nôtre, soient confrontées à une nouvelle configuration des choses et qu'on a du mal et qu'on tâtonne sur la réponse à trouver, c'est évident. Maintenant, est-ce qu'il y a un déni de l'islamisme en France? Moi, j'ai pas l'impression. On en parle tout le temps. Alors, c'est pas un déni, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire. On n'arrive pas à régler le problème. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a du déni. On en parle à longueur de colonne, on en parle à longueur d'émission, on en parle tout le temps. Tout le monde dit que c'est le nouveau problème de la société française. Simplement, c'est comme un médecin qui connaît la maladie, mais qui ne sait pas la traiter pour l'instant.
Mais combien de fichiers S dans les entreprises publiques françaises? Je pense à la RATP, je pense à ADP, des personnes qui avaient la possibilité d'agir. Je veux dire, on s'en est rendu compte tardivement. On en a parlé, on n'en parle plus pour le moment. moment, le nombre de fichiers S au sein de la RATP, c'est quand même important. Mmh. Et je veux dire, alors vous avez raison, c'est une maladie, on ne sait pas comment la guérir, mais il y a un travail à faire en amont, il faut en parler, il faut agir. Je pense qu'il faut être plus ferme, beaucoup plus ferme. Comment ça se fait qu'il s'est converti il y a 10 ans, il avait des signes de radicalisation.
Mais on est d'accord, mais c'est pas une question de déni, c'est une question de traitement.
Mais si, parce que ses collègues ont été dans le déni. Ses collègues ont été dans le déni pour ne pas le signaler. Alors, vous l'avez dit aussi à juste titre, il y a eu 4 morts. C'est énorme, 4 morts. Ça aurait pu être beaucoup. Ça aurait pu être pire.
Encore plus grave, vous le dire.
Encore plus grave, merci.
Henri Vernet, au fond, on ne peut pas surveiller tout le monde. C'est aussi la leçon que l'on tire à chaque fois de ces attentats,
attendez, pour dire que le risque zéro n'existe pas, on est tous entièrement d'accord. Je veux dire que c'est, on va vivre avec ce terrorisme, avec cette menace-là, pendant très longtemps. D'ailleurs, le mot guerre, là, Ciotti le dit ce matin, mais attendez, rappelez-vous, au lendemain, alors peut-être pas de Charlie Hebdo, mais du Bataclan et du Stade de France, le mot était directement employé par Manuel Valls, qui était à l'époque Premier ministre, par François Hollande lui-même. Ils ont même, enfin, parmi les solutions étudiées, a même été envisagé le recours à l'état de siège. Je veux dire, ça n'a pas eu de suite. C'est resté dans les confinés, dans les bureaux de l'Élysée de Matignon. Mais cette référence à un état de guerre existe. Donc une guerre, on sait que c'est long, on sait que ça prend du temps, on sait que ça affecte les mentalités. Bien évidemment, sans cela, je pense que ce débat sur le déni, je crois pas que ce soit très intéressant, très fondamental. Mais c'est vrai qu'il y a cela affecte nos mentalités, ça touche à la façon de voir les choses.
Et donc demain, l'hommage national du président de la République, vous le rappeliez, Saveria, tout à l'heure, Emmanuel Macron, aux victimes donc de cette attaque terroriste. Et ensuite, il y aura l'audition à huis clos.
À huis clos.
De Christophe Castaner par la commission parlementaire en question. Avec vous, Henri Vernet, la une du Parisien.
Alors la une, c'est un dossier sur la grande crainte des classes moyennes de déchéance sociale, mais avec sur l'enquête donc de la tuerie, de l'attentat de la préfecture, des révélations et notamment justement sur la radicalisation au sein des forces de police.
Que vous avez faite, révélation en fin d'après-midi sur leparisien.fr. Voilà, 20h58. Merci à vous, Mariam Pirzadeh, Savaïa Rojek, Henri Vernet et Gilles Bornstein d'avoir participé à ces informés de France Info. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à demain.